Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est la rentrée, le temps aussi de penser à sortir, d'aller au cinéma par exemple, quand on le peut encore. Alors pour notre rentrée cinéma, preuve que du pire peut sortir du meilleur, trois films à l'affiche de votre émission Vivante Église Cinéma, un triomphe, Démonel Courcol, l'histoire d'un prof de théâtre désireux de faire monter sur les planches des vrais, des prisonniers, ou comment l'art peut aider l'homme à retoucher à sa beauté singulière. Double Messieurs de Jean-François Stévenin, film déroutant sur deux amis qui, adultes, n'arrivent pas à grandir et partent dans une fuite folle jusqu'à traverser leurs illusions. Et le septième saut, d'Ingmar Bergman, film métaphysique sur les affres de l'âme humaine où, contrairement aux idées reçues, la lumière cherche souvent à se loger. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce vendredi. On reprend nos bonnes habitudes en cette rentrée. Ça fait partie des habitudes, non pas qu'il y en ait certaines que je reprends plus difficilement, mais quoique. Avec Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence, mercredi 19h. Louis-Marie Solaire, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Oui, c'est un grand plaisir de vous retrouver, vous et Paul.
Bonjour Paul, toujours intervenant cinéma pour les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Et heureux de reprendre cette, non seulement émission, mais aussi présentation de film, après un an,
oui.
Un an de non-cinéma.
Voilà,
de disette complète.
Ils sont venus un petit peu en avance par rapport à Noël, donc avec une bonne surprise, puisque le cinéma L'ABC, donc ayant rouvert, ce cinéma d'art et d'essai à Toulouse, leur ciné-parole, ce ciné-club qu'ils animent, aura donc lieu. Le rendez-vous est fixé donc le 23 septembre prochain, c'est ça, hein, à 14h. 14h30, pardon, 23 septembre prochain, 14h30, j'avais pas la bonne fiche, c'est pour ça. Et donc, c'est pour le premier film dont on va parler, c'est Un Triomphe, donc, de Emmanuel Courcol. On écoute tout de suite, pardon, la bande-annonce.
Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus ?
Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries.
Ah, d'accord. C'est pas pareil.
Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien.
On va faire des sketchs, nous, monsieur.
Bah ouais, nous, on va faire du stand-up.
Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre.
Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu.
T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu.
Le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle. De quoi elle parle, la pièce? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas, ça?
Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec.
Je suis là pour les tirer vers le haut.
Oh, vas-y, c'est relou ton
truc. Au boulot.
Ça veut dire 6 mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi?
Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs.
Comment veux-tu qu'ils y arrivent? C'est pas des acteurs.
Donne-moi 6 mois, je vais le faire.
Ça divine aphasie. Putain merde, je sais même pas ce que ça veut dire, aphasie.
C'est quoi ce bordel, là?
Cette répétition, madame.
Vous êtes pas dans un théâtre, ici. Vous êtes dans une prison, avec des délinquants, des criminels.
Non, tu parles pas comme ça, moi.
Attends, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène, ici. Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez.
Je crois qu'on oublie d'où on vient, non?
Le public est saisi du grand théâtre.
Je crois que vous allez faire une tournée.
Pas pour eux que t'as fait ça, c'est pour toi.
Et alors? J'ai pas le droit d'exister, moi?
Allez, c'est passé ça, quand même.
Étonnez-moi. Ça, vous l'emporterez avec vous. Personne ne viendra vous le piquer, ça.
T'es fâché?
Ah non, je suis pas fâché, non.
Non, mais je joue, là, c'est mon texte.
Ah bah, c'était bien, là. C'était juste, non?
Voilà, Un Triomphe, c'est donc Démonel Courcol. Alors, l'histoire, on l'a deviné, hein, c'est l'avantage des bandes-annonces plus contemporaines. On comprend bien, un acteur en galère accepte de boucler ses fins de mois et d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre et alors commence une aventure formidable. Louis-Marie Solaire ou Paul Dima, Louis-Marie Solaire, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage sans tout déflorer?
Ben oui, Étienne, vous l'avez dit, est un acteur qui galère. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas monté sur les planches. Il est un peu entier. C'est un personnage sans concession. On comprend qu'il a divorcé. Il a du mal avec sa fille qui a une 20aine d'années. on l'a entendu dans la bande-annonce, c'est elle qui lui envoie la figure. En fait, tu fais pas ça pour eux, tu fais ça pour toi. Mais effectivement, oui, c'est la bonne question qu'il faut se poser d'ailleurs à la vision du film. Le personnage incarné par Cadmeral déploie-t-il tous ses efforts pour lui-même ou pour ses élèves? Voilà. Effectivement, il le fait pour ses élèves, c'est sûr, mais pour lui aussi beaucoup. Et c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le montre Emmanuel Courcol. Il s'est inspiré d'une histoire vraie, d'un acteur qui s'appelle Jan Jonsson, ou Jan Jonsson, je ne sais pas comment il faut dire, puisqu'il est suédois. C'est amusant, puisqu'on va parler du septième saut, mais enfin oui. Bon. Et qui a justement connu cette expérience avec des détenus, qui a monté une pièce la même que celle que monte Étienne dans le film, c'est-à-dire En attendant Godot de Samuel Beckett, parce qu'il se dit, Étienne, que ces prisonniers, ces taulards, passent leur temps à attendre. Attendre qu'on les appelle pour le parloir, attendre d'aller manger, attendre d'aller travailler, attendre de dormir, attendre la nuit. Et En attendant Godot, c'est ça, on attend un hypothétique personnage dont on sait... On peut le dire, de toute façon, c'est pas un mystère, qu'il ne viendra jamais, et ils sont là. Et alors il dit, bah oui, c'est ça qu'il faut que vous jouiez, parce que vous passez votre temps à poireauter. Alors, interprétez ça. Et effectivement, ça va marcher. Ouais.
Alors, les critiques, j'en ai relevé quelques-unes. Journal du dimanche, Emmanuel Courcol tricote un film fédérateur et touchant, plus ambitieux qu'il n'y paraît, qui célèbre l'engagement collectif sans jamais verser dans les clichés ni le pathos. West France, du grand cinéma populaire peuplé de personnages attachants servis par une troupe de comédiens remarquables, où Le Figaro, Courcol ne repeint pas en rose les murs du centre pénitentiaire de Meaux-Choconin. Il montre le retour en cellule après les applaudissements, les fouilles et les humiliations. Ça parle des prisons aussi, Louis-Marie Soler ?
Ça parle
indirectement.
Indirectement, c'est pas vraiment le propos. C'est ce qu'on pourrait d'ailleurs reprocher à Courcol de ne montrer qu'un aspect de la vie carcérale. Alors à un moment, il fait dire à une juge, celle qui doit accorder l'autorisation de sortie à ses prisonniers, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de sortie, ils peuvent pas aller jouer au théâtre dehors. C'est pas possible. Et elle dit, mais vous vous rendez compte, c'est des criminels, des assassins, et on leur donne plus d'importance que les victimes elles-mêmes. Bref. Voilà, donc à un moment, on entend ça dans le film. Mais finalement, le propos du film, c'est de montrer ces gens, ces personnages à l'épreuve de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qui va les faire changer, quoi qu'on en dise. On ne saura rien sur eux parce que le personnage d'Étienne, l'acteur metteur en scène, ne veut rien savoir sur les raisons pour lesquelles ils sont en prison. Donc on ne saura pas ce pourquoi ils sont là. On les verra simplement interpréter les personnages, et il faut dire qu'ils ont une certaine présence et même un talent d'improvisation, puisque l'un d'entre eux, qui lui ne fait pas partie de la troupe, il est le souffleur en chef l'homme à tout faire, celui qui est à la fois régisseur, qui amène les costumes, qui est un, par rapport aux autres, qui est une espèce de grand gaillard qui vient d'un pays de l'Est, la Russie. Et à la fin de la première représentation, alors qu'on sait très bien que Godot n'arrive pas, on voit une silhouette passer derrière, dans l'ombre, un peu comme la mort dont on va parler bientôt, et qui traverse, et puis le noir se fait, c'est fini. Alors que c'est pas du tout ça dans la pièce de Beckett, mais le prisonnier, le détenu russe décide de faire ça. Voilà, il y a quelques moments qui passent, qui sont forts, comme quand ils répètent leur dialogue, parce qu'ils se voient pas sans arrêt. Alors ils sont chacun dans leur cellule, et s'apostrophe par la fenêtre en criant ce qu'ils doivent dire, et puis l'autre lui répond.
Du Samuel Beckett.
Exactement.
Paul Dima.
Alors, des critiques assez favorables, et en disant ça aurait pu être simplement un film à succès, un feel-good movie qui caresse dans le sens des bons sentiments. Et en fait, c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire d'après les différents critiques
que
j'ai lues.
On peut le dire honnêtement, vous n'avez pas pu le voir pour des raisons de passe sanitaire.
C'est ça, voilà. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est relevé par les critiques, c'est qu'il y a un subtil va-et-vient entre la réalité, puisque comme le disait Louis-Marie tout à l'heure, c'est un film qui et inspiré d'une histoire vraie qui a lieu dans les années 80. Et sa mise en scène. Donc, c'est le rapport entre la scène et la vie. Alors, on peut rajouter au cinéma, il y a les trois dimensions, c'est une mise en scène de la mise en scène et de la vie. Et pour le spectateur, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire que on voit se jouer des temps de répétition, on entend les réactions aussi des protagonistes, que ce soit le metteur en scène, que ce soit les personnes incarcérées. Et y a un jeu subtil entre le jeu de la scène et le jeu de la vie mis en scène au cinéma. C'est une approche assez subtile.
Louis-Marie Soler, Emmanuel Courcol, à chaque fois on essaie un peu de... Vous nous dégrossissez.
Alors, allez-y. Ah oui, on a déjà
abordé. C'est son deuxième long métrage.
On a déjà fait un film d'Emmanuel Courcol.
Oui, son premier, après la guerre.
Ah, je m'en souviens pas.
Avec, où il racontait l'histoire de deux frères qui avaient connu les tranchées. L'un était officier, l'autre soldat.
Oui.
Et l'un incarné par Romain Duris, l'autre par Grégory Gadebois. Et ce qui se passait justement,
ah oui, j'étais là en plus,
le traumatisme, vous étiez là. Et,
ah oui.
Et, voilà. Et donc Courcol a réalisé ce premier film qui avait marqué. Oui. Il a fait aussi, il est surtout connu comme scénariste. Il a écrit beaucoup de scénarios et il a réalisé quelques...
Welcome.
Non.
Non. Nomination au César du meilleur scénario, Welcome.
Ah oui, pardon, oui, la nomination, je pensais à son court-métrage, oui, pardon. Ça par rapport au scénario, oui, bien sûr. Mais il avait fait, moi j'avais beaucoup aimé un de ses courts-métrages, Géraldine, je t'aime, qui était magnifique, déjà avec Grégory Gadebois. Si vous avez l'occasion de voir ce film, ce court-métrage, ne le ratez sous aucun prétexte.
Eh bien, à voir, un triomphe, c'est bon ?
Oui, c'est bon,
oui, ça va,
on triomphe.
Faut aller le voir.
Oui. On peut y aller.
Un triomphe d'Emmanuel Courcol. Et on va s'arrêter là. Et je peux lire la fin, puisqu'on a un tout petit peu de temps, la fin de la critique du Figaro. Un triomphe est le meilleur film français de prison depuis Un prophète de Jacques Audiard. Mmh.
Voilà. Dans un genre différent, quand même. Le prophète, c'est un film dur, mais effectivement, le milieu carcéral de Jacques Audiard a été impressionnant, lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons.
Un triomphe d'Emmanuel Courcol. Allez, on fait une première pause musicale, et puis après, on va parler de double mixte de Jean-François Stévenin.
Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce vendredi 10 septembre, cette rentrée pour nous, semaine de rentrée radiophonique. Donc on reprend nos bonnes habitudes. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient autour du plateau, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïstes, tous deux animateurs. Pour rappel également de ce ciné-parole, ce ciné-club au cinéma L'ABC à Toulouse. Prochain rendez-vous, 23 septembre, 14h30. Donc pour le film dont on a parlé en première partie, Un triomphe d'Emmanuel Courcol. Deuxième film, il s'agit donc de Double Messieurs et non pas Double Mixte de Jean-François Stévenin. On va commencer aussi par écouter la bande-annonce.
Après 25 ans, faire attendre de mon copain devant la porte, c'est vraiment pas sympa, non?
Je voudrais rester 5 minutes tranquille.
Froide?
Ah oui, oui, oui. Non, moi, je coucherai même pas avec elle en plein été. Hein. J'aurais peur d'attraper une angine.
Faut surtout pas me prendre pour un con. Faut que je garde sur table avec moi. Faut pas me prendre pour un con.
Alors, Louis-Marie Soler, vous avez décidé de nous dérouter en cette rentrée, n'est-ce pas? Avec ce film, donc Double Messieurs, Jean-François Stévenin. On peut raconter l'histoire, même si c'est une forme de déroute pour tout le monde. François, c'est donc un cadre sans histoire qui mène une existence paisible, quoique, entouré de sa femme et de ses enfants. Un jour, il découvre sur la couverture d'un roman policier le portrait de son vieux complice Léo qu'il n'a pas vu depuis 25 ans. Il cherche donc à le rejoindre. Ce dernier est devenu cascadeur de cinéma, mais resté un éternel adolescent, et ensemble, ils décident de retrouver le troisième larron de leur bande, un certain Kumchitsky. Tout un programme ne s'appelait déjà Kumchitsky, hein ?
Oui, oui, c'est compliqué. D'ailleurs, il l'appelle le Kumch.
Ça, c'est l'histoire. Allez, si on s'en tient juste à l'histoire, l'histoire, à un moment, on a quand même un peu du mal à suivre.
Oui, parce que en fait, c'est l'histoire, c'est le parti pris de Stévenin. Stévenin, qu'on connaît surtout comme acteur, il a une filmographie assez impressionnante, longue en tout cas, un des seconds rôles les plus en vue du cinéma français. On l'a rarement vu dans un premier rôle. Lui se donnait le premier rôle, évidemment, il n'y a pas de raison. Il a réalisé
oui,
trois films.
C'est donc l'acteur principal aussi.
C'est l'acteur principal.
Qui joue François.
Et avec son complice Léo, c'est Yves Afonso. Et il a réalisé trois films, mais il avait une telle façon de travailler que c'était long pour lui d'accoucher d'un film, si on peut dire ça comme ça. C'était très, très compliqué. Et c'est pour ça qu'il n'a réalisé que trois films. Donc Double Messieurs est le deuxième de ses opus qu'il a réalisé lui-même ici.
Alors juste, si on s'en tient à l'histoire.
À l'histoire, voilà.
L'histoire, c'est trois copains qui essayent de revenir jeunes années.
Quand on lit le résumé comme vous l'avez fait, ça donne une fausse idée du film. Parce qu'en fait, François voit, alors qu'il est dans l'avion, vous l'avez dit, il est un cadre, il travaille pour une banque, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, il est cadre. Et d'un coup, il va au cours d'un de ses voyages, il est dans l'avion, il voit un livre sur lequel, sur la couverture, il retrouve le portrait de son copain Léo. Et ça lui donne envie de le retrouver. Et il va aller retrouver Léo, mais il n'a finalement pas franchement envie de le retrouver. Il a envie, sans en avoir envie. Il va partir alors que lui et Léo a été chercher quelque chose à boire parce qu'il est content de se... Et puis, les circonstances vont faire que Léo va revenir vers lui et ils vont partir à la recherche de ce Kunch. Alors, quand on entend dans la bande-annonce...
c'est son surnom, hein.
Ouais.
Kunchinski.
Quand on entend les deux copains, enfin, on entend l'un des deux qui dit « Ouais, faire poireauter ses deux amis alors que des amis de 25 ans », on ne peut pas considérer qu'ils sont amis parce que le Kunch en question, c'était leur souffre-douleur et ils ont fait des trucs pas terribles quand ils étaient en colo. Alors, il y en a un qui a grandi, donc
comme
François...
Comme de lui mettre une croix gammée sur le bras.
Ouais, et puis de le pendre par les pieds et lui faire faire le signe nazi. Donc, c'est pas terrible. Donc, il y a... Un est resté bloqué dans l'adolescence, un a grandi, ils se retrouvent, ils ont ce faux prétexte d'aller retrouver ce Kunch et en fait de revenir dans cette adolescence qu'ils ont aimée, en tout cas de laquelle... L'un des deux, Léo, n'a pas su sortir et ils veulent retourner dans la colo qui, il se trouve, est devenue une maison de retraite.
Ce François, on peut dire aussi que quand on dit cadre sans histoire, ça veut tout dire parfois. C'est-à-dire, il s'ennuie a priori, non
c'est... Oui, mais oui, c'est
tout
ça.
D'un coup, il y a une brèche dans son quotidien. Et,
alors, il saisit le destin, je ne sais pas. Il dit tiens, pourquoi pas retrouver mon copain et se mettre ensemble à la recherche de ce fameux Kunch.
Il cherche à fuir un peu, non?
Oui.
Parce que le reste du film, c'est comme une
leur
fuite,
vie. Quoique très différente et devant un peu la même vacuité. Ils font des choses, mais bof, voilà. Et alors peut-être qu'il y a le rêve derrière que retrouver les vieux copains d'il y a 25 ans, ça va redonner du souffle, et puis en fait, ça tombe comme un mauvais soufflet. Bon, alors, dans cette histoire-là, il y en a deux qui cherchent le troisième, et puis il y a une quatrième qui va débarquer sans crier gare et qui va emporter le duo de François et Yves.
Léo.
Léo.
Parce que donc, ils débarquent dans la maison du soi-disant troisième larron, et oui. Là, ils font face à la femme de cet homme,
oui.
Qui se trouve être incarné par... Carole Bouquet.
Carole Bouquet, oui, absolument, oui. Qui a un rôle très, très intéressant.
Oui. Hein.
Alors, il faut dire aussi que la technique filmique de Stevenin est quand même tout à fait particulière. Là, Louis-Marie en parlera très savamment. Mais à regarder ces films, on est vraiment dérouté. Parce que...
C'est bien de prévenir quand même, parce que
oui,
c'est le cas.
Oui, oui. Il travaille en plan séquence, très court. Il recompose l'histoire à sa façon. Ce qui compte, c'est pas l'histoire elle-même, c'est tout ce qui peut advenir, qui se présente mais qui se fait pas, voilà. C'est plein d'incertitudes, en fait, la vie. Et puis, bah, on navigue là-dedans, mais on sait pas trop où ça va.
Louis-Marie Salaire, est-ce que c'est une marque de fabrique, ce que vient de dire des trois films de Stevenin? On ne sait pas trop où va la vie. Et...
Oui. C'est ça, c'est la préoccupation de Stevenin. En tout cas, la préoccupation en tant que réalisateur, metteur en scène, et raconter des histoires, à écrire des histoires. Écrire, il avait beaucoup de mal aussi. Quand je dis, du mal, il n'arrivait pas à se mettre à une table, à écrire et puis à accoucher d'un scénario. D'ailleurs, chaque fois qu'il allait voir les producteurs, il leur proposait une trentaine de pages. Il dit, de toute façon, il n'est pas fini et le film sera différent de ce qu'il a écrit. Donc, c'est compliqué d'avoir des financements quand on se présente comme ça à un producteur. Et il passe, en tout cas pour ces trois films, pour un maître dans ce genre. C'est un mode narratif, une façon de faire des films qu'on ne rencontre plus maintenant, parce que maintenant, il faut être rentable.
Ou les acteurs, vous disiez en préparant l'émission, parfois, inventent leur dialogue, il les met en situation, il les pousse,
oui.
Et puis il attend de voir ce qui se passe.
Et ça peut crisper les acteurs. Oui, Yves Afonso, qui joue le rôle du copain de François, Léo, un rôle important dans le film, à certains moments, il était très crispé. Il était là, sur son petit carnet, à écrire des dialogues, alors que l'autre ne lui proposait rien, oui, effectivement.
Mais alors, quel est l'intérêt revenir... de cette manière de tourner, peut-être?
Mais parce
et
qu'il
en, a... quoi, en quoi ça sert le propos, qui est cette espèce de fuite en avant, de retour impossible vers le passé?
C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent le spectateur, il a du boulot, quoi. On lui mâche pas l'histoire, on lui propose pas un produit fini comme ça. Tiens, voilà, regarde, profites-en, trouve que c'est beau ou pas. Et tu comprends bien, il y a un début, un milieu et une fin. Lui, non. Il demande à ce qu'on rentre dans son histoire, à ce qu'on suive ses personnages. Et puis, à certains moments, on part d'un côté. Parce que finalement, dans cette histoire, c'est lui qui veut retrouver le Kunch. Il abandonne Léo. Léo s'invite à nouveau. Puisque, en fait, Léo va le retrouver à Grenoble, puisque c'est à Grenoble qu'il a trouvé le Kunch, alors qu'ils sont à Paris tous les deux. Donc, Léo va se greffer dans cette histoire, donc le double messieurs du titre. Et puis, d'un coup, quand il va y avoir ce personnage féminin, pouf, Léo, d'une certaine façon, va être gommé.
Il oublie le vieux copain, là.
Il oublie le vieux copain.
Il... Carole Bouquet...
Oui, mais il y a quelque chose...
Elle boit un peu, mais elle a du charme. Hein.
Et le copain, bon, voilà. Et puis, le copain, il va prendre le train. Il va s'enfuir. Alors qu'il est venu avec sa propre voiture. En fait, la voiture d'un copain.
Déjà, on est perdu, mais c'est comme dans le film.
Oui, mais c'est ça. On suit. Qu'est-ce que c'est? On a du mal à grandir. On sait pas comment c'est l'amour. Comment on se rencontre? Comment on se retrouve? C'est ça. Tout est là. C'est ce qui fait le génie qu'on adore ou qu'on déteste de Steven. On peut pas avoir de demi-mesure à la vision de ce film. En fait, c'est l'impression que j'ai. Peut-être que Paul ou d'autres diraient autre
Paul
chose.
Dimin, c'est
les
quoi,
critiques cinématographiques dans leur ensemble sont plutôt très élogieux par rapport au film de Steven, même s'ils sont difficiles. Et peut-être cette difficulté de compréhension, de réception, dit aussi quelque chose de la force du cinéma. Il n'y a pas que la rationalité qui compte, il n'y a pas que la limpidité du récit. C'est une façon de traduire à la fois une dimension poétique, surréaliste. C'est Jacques Maurice dans Critique de cinéma Télérama qui dit « Double messieurs défient la raison et la logique, leur préférant l'accident, l'imprévu, le frottement et l'absurde. Question de souffle poétique. » Et en cela, Stevenin excelle. C'est pas du n'importe quoi.
Dans la vie, il y a de ça, quelque part.
Même si c'est déroutant, voilà. C'est une autre façon de regarder la vie. On a un peu de peine à s'y retrouver, mais et pourquoi pas dire ben c'est aussi ça la vie.
Louis-Marie Solaire, pour une fois, on peut peut-être parler du dernier plan, ça qui met peut-être en perspective le reste du film.
Et oui, parce que
cette espèce de travelling vers le vide là.
Oui, on est dans la montagne.
C'est Massif de la Chartreuse ou équivalent, c'est ça?
Oui, on sait pas trop. Et ils sont pas du tout équipés pour la montagne. Si, elle a prévu quand même. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la neige?
Il est en costard
en chaussures
de ville.
Mais que fait-il là? Ils vont se trouver, ils se cherchent, ils se tournent autour pour finalement s'asseoir, se mettre face à face. On ne sait pas, ils sont...
Je parlais du travelling de fin, là. La caméra arrive et...
Alors là, c'est le travelling de fin, c'était pour montrer que, d'abord, comme l'a souligné Paul, qu'il tournait essentiellement en plan séquence, donc il a besoin de travelling. Et en fait, pour mettre en scène, il met en scène toute l'équipe technique. C'est-à-dire que quand le générique de fin, il dit il y a lui qui est au son, on voit un micro et on le voit.
Je croyais que le plan où on arrive dans le vide, ça disait quelque chose du film aussi. J'avais lu certaines critiques qui laissaient entendre que c'était une forme de conclusion, de montrer que c'était...
Oui, peut-être.
La vie était parfois au bord de l'abîme, pleine de...
Peut-être. Moi, je vois la conclusion du film au moment où on laisse le couple seul dans la neige. On ne sait pas si c'est la nuit, si la nuit est tombée, s'ils s'enlacent, ils se regardent, ils sourient. On peut imaginer que quelque chose est en train de se passer.
Et ils disparaissent dans les nuages.
Voilà, je vois une fin là, plus que dans cette histoire de vide où simplement il veut montrer que qu'il fallait un travelling, qu'il fallait des rails pour pouvoir tourner ça, qu'il les a amenés en haut de la montagne et que c'était compliqué d'amener tout ce matériel, quoi.
Paul Dima, est-ce qu'ils traversent leurs illusions quelque part? C'est ce que je laissais entendre dans le titre, j'ai lu ça aussi. J'avoue que moi je ne l'avais pas vu dans le film, donc on sent des adultes qui essayent de revivre
des choses impossibles. Oui, et peut-être que plus qu'ils
traversent, chercher un monde parallèle de leur vie.
Ils trouvent qu'ils réalisent que c'est une illusion que de croire qu'on peut, il suffit de dire « Ah ben on reste amis pour le rester ». Et que, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent 25 ans après, mais ils ne vont pas reconstruire ce qu'ils étaient. Ce n'est pas possible. Et en fait, ils vont se séparer. C'est-à-dire que la séparation de 25 ans n'a pas fait qu'ils se rencontrent comme ils étaient 25 ans auparavant et que le chemin ensemble, en fait, n'est guère possible.
Voilà, comme quoi, contrairement à certains sites internet, hein, copains d'avant, de retrouver ses vieux copains de primaire ou de collège, parfois, c'est les soirées qui font pchit, ça.
Effectivement.
Voilà. Je ne sais pas si la conclusion est aussi talentueuse que ce film, mais Double Messieurs, c'est donc de Jean-François Stevenin. On va faire une deuxième pause, on va écouter
On va écouter Johnny, parce que Stevenin était un grand fan de Johnny, qui apparaît d'ailleurs dans son troisième film, Mishka. À ce propos, on peut voir ces trois films, ils sont regroupés dans un coffret. Il y a Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka, dans cet ordre. Je dis dans l'ordre du premier au troisième, chez Le Pacte, je vais y arriver. Et donc c'était un grand fan de Johnny, et on voit Johnny dans Mishka. Il a quelques scènes importantes dans Mishka.
On peut les voir chez qui, vous dites? Chez
Le Pacte.
Le Pacte.
Le Pacte. J'y suis arrivé.
et que Louis-Marie est un grand fan de Jean-François Stevenin.
Et
que c'est un hommage après
sa disparition.
Après sa disparition.
Il nous a quittés fin juillet. Alors, on avait envie de lui rendre hommage.
Oui, mort, c'est vrai, le 27 juillet 2021. Ouais.
Et on écoute donc Johnny. Tais-toi.
Voilà, troisième film après, teasing, ce sera donc le septième saut d'Igmar Bergman. Si vous êtes comme moi, que vous apprenez à être cinéphile avec eux, Louis-Marie Soler m'a dit, quand on a vu le septième saut, on peut dire qu'on est cinéphile.
Eh oui.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église, enfin c'est le titre, pardon, de l'émission Vivante Église de ce vendredi matin, émission cinéma, autour du plateau Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes aux Pays et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest. Troisième film, c'est donc le chef-d'œuvre spirituel de ce mois et de cette rentrée, s'il en est le septième saut, donc d'Ingmar Bergman. On va écouter la bande-annonce, alors c'est du suédois, mais comme il doit y avoir au moins un suédois, on va écouter quand même quoi, 30 secondes ou 45, lui Marie Soler ?
35.
Allez, c'est parti.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant?
Hur vet du det?
Ja, jag har sett det på målningar och hört i visorna.
Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Alors on a un peu fait exprès de laisser malgré tout, parce qu'on entend quand même pas mal de choses dans cet extrait, hein, la séquence, enfin le rythme un peu saccadé, voilà, une voix étrange, cette musique, bref, ça pose un peu le décor et l'ambiance de ce film. Alors donc on est au 14e siècle, même si, semble-t-il, c'est un auteur qui a appris quelques libertés par rapport à l'histoire, il y a des épisodes qui se rencontrent, qui ne sont pas de la même époque, peu importe. C'est pas un film historique. Au XIVe siècle, un chevalier et son écuyer, après 10 ans passés aux croisades, sont de retour en Suède, où une épidémie, de peste noire fait rage. Et c'est ce qu'on en a entendu. Sur une plage déserte, le chevalier rencontre la mort qui lui propose une partie d'échecs. Ou c'est plutôt le chevalier qui propose à la mort une partie d'échecs. Et puis, des grandes questions existentielles. Dieu existe-t-il ? La vie a-t-elle un sens ? L'épidémie de peste est-elle ce dont parle l'Apocalypse ? Et ce chevalier et cet écuyer vont donc cheminer. Alors Louis-Marie Soler, le reste de l'histoire, il chemine et il rencontre une famille de baladins.
De baladins, oui. Et on va être confronté à différentes perceptions de la vie. On a d'un côté le chevalier qui est dans cette expectative, cette partie d'échec avec la mort. Hein, parce qu'il a proposé à la mort une partie d'échec parce que on le sentait, on comprenait pas, c'est compliqué, mais la mort était sur cette plage pour venir le chercher. Et c'est lui qui a dit, hop, moi, d'accord, je sais, hein, moi je suis prêt, mais mon corps est prêt, mais moi je ne le suis pas à partir. Et il lui propose cette partie d'échec, et s'il perd la partie, évidemment la mort l'emportera. Et l'emportera, c'est-à-dire qu'elle le tuera. Et donc, avec les baladins, il y a une autre perception, une autre acception de la vie, de la façon d'être. Il y a quelque chose de plus léger, si tant est que... Parce que finalement...
Plus pur.
Plus pur, hein, oui. Parfois, oui. Parce que finalement, quoi qu'on en dise, le film n'est pas pesant. Le film, c'est quelque chose... C'est un monument, mais c'est extraordinaire. Parce que finalement, ce chevalier, il a ce questionnement. Il est parti 10 ans en croisade. Il est avec son écuyer. Et finalement, son questionnement, il est somme toute assez naturel, quoi, et logique par rapport à ce qu'il a vécu et ce qu'il est en train de voir, puisque vous l'avez dit, il y a une épidémie.
Alors, je dis juste une ou deux critiques. Donc, c'est un film qui est sorti en quelle année, lui, Marie Soler ?
En 57.
Voilà, 57. Les critiques que j'ai pu trouver qui sont de cette époque, oui, c'est ça. François, le septième saut, est un de ces films que l'on conservera dans les cinémathèques et que l'on projettera encore dans 20 ans au Ciné-Club. Le septième saut, ça, cette fois, c'est Libération, un film si important dans une époque qui a perdu le sens du sacré qu'il faut, l'ayant vu, le revoir au moins une fois pour en découvrir la beauté, toutes les promesses et toutes les racines. Et puis le monde, sous sa rude écorce, le septième saut dissimule des trésors. Paul Dima, si on continue peut-être de parler un tout petit peu de l'histoire, le chevalier et l'écuyer, ils ont deux positions différentes quand même par rapport au grand problème métaphysique que pose ce film.
Tout à fait, oui. Le chevalier est un être cultivé qui réfléchit beaucoup et qui se pose plein de questions. Si Dieu existe-t-il, pourquoi est-il aussi silencieux ? Et il y a à la fois le doute, il y a... le désir de savoir pourquoi le monde est comme ça, pourquoi il y a la peste. Il revient d'une croisade un peu calamiteuse pour lui, c'est-à-dire que ça a été violent, ça a été et peu glorieux. Il revient un petit peu déçu de tout ça. Son écuyer est très différent. Il est à la fois capable de beaucoup de bienveillance avec des gens qu'il rencontre et tout, mais il peut être aussi très violent, ce qui n'est pas le cas du chevalier.
Il y a une scène d'ailleurs qui le représente, non ? Il sauve une femme quasiment du viol, et derrière,
il
lui dit je t'ai sauvé du viol, mais maintenant,
ben voilà,
j'ai besoin d'une servante, allez, yalla, quoi.
Voilà, c'est ça. Tu viens à mon service, quoi. Bon. Et il y a cette troupe, ce couple surtout de chanteurs, jongleurs, poètes, rêveurs et visionnaires. Et ça, c'est intéressant. L'homme, je ne sais plus son nom, le baladin, est un poète, mais il voit aussi la Vierge. Enfin, il est branché en direct dans le monde surnaturel. Et alors, il se fait un peu le Moyen-Âge représenté par Ingmar Bergman. Ici est un Moyen-Âge de recomposition. Il y a des rustres, il y a des qui ne comprennent pas grand-chose au spectacle de réjouissance qui sont proposés par ces baladins. Les artistes sont rudoyés dans les tavernes, méprisés et tout ça, quoi. C'est des feignants. Ils racontent que des sornettes qui n'ont pas beaucoup de sens. Alors que Bergman dit, mais ils sont la conscience du monde. Et le poète est celui qui voit au-delà de ce qui est directement accessible. Et il y a une tendresse de Bergman par rapport à ces saltimbanques. Et lui-même se situe comme cinéaste, comme le saltimbanque, qui va dire par le jeu de la scène, de la mise en scène cinématographique, quelque chose de très subtil, de « qui sommes-nous ? Où allons-nous ?» Enfin, toutes ces questions-là sont posées. Et il y a un désir d'une mystique, il y a une quête mystique au-delà des contingences matérielles.
Alors on peut dire aussi que le septième sceau, c'est donc un extrait donc de l'Apocalypse selon saint Jean, les deux premiers versets du chapitre 8. Et lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit sept trompettes. Louis-Marie Soler, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, donc non pas de ce film, mais de cet immense réalisateur, Ingmar Bergman? Vous dites que quand on a vu un film, on commence à être cinéaste. Pourquoi?
Parce que Bergman fait partie des grands réalisateurs, d'un des plus grands réalisateurs mondialement connu. C'est pas
1918-2007.
Sa notoriété a largement dépassé les frontières de la Suède. Certains de ses acteurs aussi sont devenus, en particulier deux qu'on voit dans ce film-là. Les autres non sont restés des fidèles à Bergman, mais ceux qu'on a revus après dans des productions internationales, c'est Max von Sydow qui joue le rôle du chevalier et Bibi Anderson qui ont été aussi des acteurs marquant de Bergman et marquant du cinéma. Dans l'histoire du cinéma.
Alors, le fil rouge de son cinéma,
Le fil rouge de son cinéma, c'est sa façon d'aborder les sujets et puis son
c'est un cinéma côté métaphysique
sans concession. Alors, ça serait un peu réducteur de dire qu'il est que métaphysique, parce que, alors, à partir de ce moment-là, c'est un cinéma austère. Il n'est pas forcément austère, le cinéma de Bergman. Il raconte des histoires et il les raconte bien. Alors, il les raconte à sa façon, certes, mais il y a quelque chose, il se passe des choses. On ne s'ennuie pas devant les films de Bergman, contrairement à ce qu'on pourrait, ce qu'on peut penser. Non, pas du tout. Vous l'avez dit à propos des forains. Il imagine que lui aussi est un saltimbanque, c'est ça. Et en fait, dans le septième sceau, c'est un film sur ces baladins plus que sur les considérations du chevalier, l'appréhension de son écuyer, Et la mort. Mais la mort, elle a pas un beau rôle, parce que la mort, elle est pas salvatrice, elle a même pas de réponse. Oui. Elle a pas de réponse, la mort, elle vient, elle vous prend, et puis c'est tout. Y a pas... Oui, d'accord, bon, mais pourquoi, pourquoi? Mais non, la mort, elle est là, la mort. Mais elle peut aussi, et c'est ce qui fait le charme aussi des films de Bergman, c'est qu'au moment où elle vient prendre les gens, finalement, elle les choisit. Et elle ne prend pas n'importe lesquels à la fin du film. On ne dira pas lesquels, mais elle ne les prend pas tous. Et ceux qu'elle prend, ben, elle les prend. Et elle l'en laisse. Et ceux-là, ben, finalement, on est bien content qu'elle les laisse.
On peut citer quelques titres de films.
Oui, il y a...
Cris chuchotement, Scène de la vie conjugale.
Oui, bien sûr.
Fraises sauvages, Communion.
Sonate d'automne.
Sonate d'automne, magnifique.
Fanny et Alexandre.
L'heure du loup. Enfin, il a une filmographie extraordinaire. Oui.
Mmh. Alors, Louis-Marie Salaire, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Paul Dima.
Vous aurez à répondre.
On l'a déjà énoncé. C'est un cinéaste exigeant qui mettait. Alors lui, on parlait avec Stevenin, de quelqu'un qui écrivait pas. Lui, tout était mesuré, calculé, et puis il s'entourait d'une équipe, son chef opérateur. Quand on voit ce film 57, l'éclairage, les images sont d'une beauté confondante. Enfin, il y a certains moments là, quand on voit la mort arriver sur la plage, ça y est, on y est. Le ressac, cette silhouette, le chevalier, En deux plans, même pas un plan, tout est là, tout est dit, on a l'histoire, on voit tout ce qui va se passer, on sent le nœud de l'intrigue, de ce qui va devenir du chevalier, et de cette mort. Alors effectivement, c'est une langue qu'on ne maîtrise pas, donc... On comprend pas bien, c'est tout à l'heure l'extrait, hein. C'est pas comme quand on voit un extrait en anglais, voire en allemand, en espagnol, en italien, ce sont des langues qui nous parlent un peu, les langues latines, tandis que là non, mais il y a quelque chose entre les deux, parce que le chevalier, il fait un peu le fanfaron quand même, face à la mort.
Oui, oui.
Il fait le fanfaron, ouais, on va jouer aux échecs, tu vas voir, moi je suis bon
tu
aux échecs.
Tu me prendras pas comme ça.
Tu m'auras pas comme ça. Voilà, il y a tout ça chez Bergman, il y a du beau, du grave, du métaphysique, des considérations philosophiques, ésotériques, c'est extraordinaire. Tout est là, le cinéma de Bergman est là, et le septième sceau fait partie des grands films.
Et dans celui-ci en particulier, il y a un génie de l'image, c'est-à-dire que le texte, Louis-Marie le rappelait, est important, mais aussi la composition de l'image, l'éclairage... l'échelle des plans, tout. Il se passe plein de choses à saisir à partir de ce qu'on voit et pas seulement à partir de ce qu'on entend dire. Et là, il y a une force du cinéma qui est stupéfiante. C'est très très beau, et de fait, pour les cinéphiles, les cinéphilistes, c'est un chef-d'œuvre.
Eh ben merci messieurs de nous avoir lancés pour cette rentrée, ça donne envie d'aller au cinéma ou de regarder ces films et puis de se plonger dans... C'est bien, ce qui est bien c'est que là avec la filmographie de Ingmar Bergman, on a de quoi passer l'hiver. Hein.
Ah oui,
oui largement.
Et même le printemps suivant.
Un triomphe d'Emmanuel Courcol, c'est le film à l'affiche avec pour rappel donc le ciné-parole que vous animerez. Donc ça sera le 23 septembre prochain au cinéma L'ABC, 14h30. Allez, il nous reste que 2-3 minutes, le ciné-parole en deux mots, puisque c'est la rentrée et que ça reprend.
Alors, ciné-parole se situe dans le cadre des programmations du cinéma art et essai de l'ABC à Toulouse, à côté de Saint-Sernin. Et parmi les films qui sont diffusés cette quinzaine-là ou cette semaine-là, en accord avec le directeur Marc Van Maël, on choisit un film pour à la fois présenter le réalisateur, introduire au film... Et puis ensuite, proposer un débat à partir de ce film.
Alors le débat, c'est...
Alors le débat, c'est... Qu'est-ce qui nous a touché dans ce film-là? Quelles questions C'est pour sortir de... Bon, t'as trouvé ça bien? Bof, ou bien... La création de ce ciné-club, c'était de dire... C'est trop dommage de sortir d'un film en disant simplement j'ai aimé, j'ai pas aimé. Parce que ça dit rien, ni de ce qu'on a vécu, ni du film... ni de ses plaisirs des plaisirs. Le cinéma, comme toute œuvre d'art, mérite mieux que ça.
C'est donc le 23 septembre prochain au cinéma L'ABC, c'est juste à côté de la Basilique Saint-Sernin, 14h30. C'est donc pour Un triomphe d'Emmanuel Courcol. Et puis les deux autres films dont on a parlé, c'est donc Double Messieurs de Jean-François Stévenin et Le septième saut d'Igmar Bergman. Merci beaucoup et rendez-vous le mois prochain, cette émission à la technique, pardon, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.